France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, ce rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France, chaque dimanche matin à 8h30. Certains livres ne cherchent ni à convaincre, ni à expliquer, mais à accompagner. Lettre à un jeune chercheur de Dieu chez Labor et Fides, le nouveau livre de Martine Lecoq, appartient sans doute à cette famille. Une parole de foi sans dogme, une spiritualité sans surplomb, une espérance qui se glisse au ras de nos vies ordinaires. Journaliste, écrivaine, critique d'art, Martine Lecoq s'adresse ici à un jeune chercheur de Dieu, mais peut-être aussi à chacun de nous, croyants, douteurs ou simplement en chemin. Pendant cette demi-heure, nous allons entrer dans cette conversation intime, libre et protestante, où il est question de Dieu, de prière, de solitude, de bonheur, d'église et d'espérance. Bonjour Martine Lecoq.
Bonjour.
Comme je le disais à l'instant, vous êtes journaliste, critique d'art, essayiste. Qu'est-ce qui vous a conduite aujourd'hui à écrire ce livre assez personnel, Lettre à un jeune chercheur de Dieu ?
En fait, c'est un peu un mélange de pensées anciennes et nouvelles, qui un peu une résultante de mon cheminement dans les églises protestantes, et aussi une expérience de vie que j'ai eu envie un peu de transmettre. Et comme vous le dites, effectivement, pas du tout sur un ton professoral, oui. Plutôt d'égal à égal, avec une espèce d'alter ego imaginé. Mais effectivement, c'est un livre qui s'adresse à tous les âges, croyants ou non-croyants, des gens qui ont la foi, je dirais, une foi en Dieu peut-être, mais pas forcément, mais surtout une foi. Enfin,
alors pourquoi avoir choisi cette forme particulière de la lettre, des lettres au pluriel, je précise, puisqu'elles sont au nombre de 44, je crois.
C'est bien, vous les avez comptées, moi pas.
Sans titre, comme une sorte de long fil intérieur plutôt qu'un essai ou un récit plus classique.
Parce que c'est plus vivant, enfin, ouais. Je trouve, et surtout plus incarné. Enfin, c'est vrai que c'est quand
la
même au centre
de
ce que ma manière d'écrire, ouais. De faire que c'est un corps, enfin un esprit dans une chair.
Parlons de ce jeune chercheur de Dieu donc auquel vous vous adressez. Est-il une personne réelle, une figure symbolique ou pas encore une part de vous-même même,
C'est un peu un fait peu de ça. Beaucoup de visages en ouais. fait, beaucoup de visages. Et on est tous des jeunes chercheurs de Dieu. Faut garder en nous cet esprit du débutant dans les choses de la foi. Je crois que c'est important parce que, comme je le dis aussi dans mon livre, l'Église peut défraîchir la foi.
Oui. On va parler de l'Église
oui,
tout
on
à
va
l'heure.
En parler.
Il faut en parler.
Il faut en parler absolument. Oui.
Vous écrivez, c'est un peu votre postulat de départ, que notre vie de tous les jours est au fond si peu quotidienne. Où se cache, selon vous, la dimension spirituelle dans ces existences ordinaires ?
Elle se cache partout, en fait. Tout peut avoir une dimension spirituelle. C'est vraiment chacun peut élever sa vie la plus quotidienne qui soit. Tout peut, même manger, boire, peut être très spirituel. Je veux dire, peut être une prière cachée, je dirais.
Ça me fait penser à un texte biblique qui dit « Rendez gloire à Dieu en toutes choses ».
Oui, oui, oui.
C'est toujours quelque chose qui m'interroge, qui peut nous questionner, parce qu'en toute chose, rendre gloire à Dieu...
Oui, c'est pas forcément possible, mais il y a toujours un moment où c'est possible quand même. C'est-à-dire que ça s'introduit dans nos vies parfois au moment où on s'y attend le moins, et ça peut être dans des circonstances les plus apparemment banales, mais ouais. qui le sont jamais, effectivement. Ouais, ouais. C'est vrai que notre vie est extraordinaire, parce qu'elle se passe entre une naissance inexplicable et un après-mort dont on ignore tout. Donc parfois, on a quand même ce vertige de cet inconnu dans lequel on est pris. Quand
Bien
même.
Sûr. Alors justement, Martine, cette question de la vie ordinaire, entre guillemets, a inspiré notre chroniqueuse du jour, c'est Laurie Chamard. Bonjour Laurie.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous.
Très bonne année à vous d'ailleurs, Merci. Puisque c'est la première fois que vous intervenez cette année. Bonne année d'ailleurs également. On est déjà en février, je ne sais pas s'il faut encore le dire ou pas, mais voilà. Laurie, c'est cette question de la vie ordinaire, là, ça vous tracasse un peu. Et ça, je crois que ça a rappelé un souvenir de choses que vous avez entendues, vues.
Effectivement, Jean-Luc. En fait, je suis tombée sur un nouveau format de vidéo sur les réseaux sociaux qui est enregistré par une émission de télé qui fait de l'information. Et le format s'appelle Capté. Et le principe, c'est que les journalistes mettent des micros à un groupe de gens qui sont en train de discuter entre eux. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage dans ce qu'on voit. On voit juste les gens de dos ou de loin. Et même avec l'artifice du micro, l'idée c'est d'enregistrer une discussion normale avec des gens qui sont dans un bar, en terrasse ou au bord d'une plage. Et le format cartonne autant qu'il divise. Et ça on le voit à travers les commentaires qui sont laissés en dessous des vidéos. Il y a ceux qui apprécient et qui rédigent généralement une note très succincte comme « excellent ». Ou meilleur concept. C'est un peu l'équivalent du bon trimestre sur les bulletins de notes des bons élèves.
Ça alors vous arrivez d'avoir ça ?
Excellent trimestre, toujours. alors que ceux qui n'aiment pas, ils y mettent un peu plus de leur personne, à coup de inutilité, futilité, ma génération me dégoûte, c'est des vrais commentaires, hein. Ou bien encore un désabusé à le français moyen.
Ouais, oui.
Et c'est intéressant parce que les gens ont un avis très polarisé sur exactement le même sujet. On nous présente à travers ce concept des discussions banales.
Alors la polarisation, c'est un terme tristement trop présent à mon goût, mais certainement une réalité qui en plus s'amplifie avec les réseaux sociaux. Alors on a envie d'en savoir plus, comment ça se passe ici ?
Oui, alors ceux qui adorent trouvent dans cette trivialité une forme de vérité. Ils aiment bien entendre les gens parler naturellement alors qu'on passe le reste de notre temps à entendre des discours politiques très préparés. Les gens qui parlent de mouettes au bord de la mer et des derniers films qu'ils ont aimés, c'est des gens comme nous. Et ça rassure de voir qu'on a un peu tous les mêmes sujets de conversation. Ou bien, bah, ça dégoûte, ou ça déprime. Parce que si certains y trouvent la vraie vie normale, d'autres y voient la banalité ennuyante, le vide de sens. Si tout le monde parle pareil, on se rend compte d'une condition absurde. Et ça, il faut pas le voir parce qu'on s'approche trop près d'un vide profond. Non, il faut parler d'expo, il faut parler de l'argument ontologique de l'existence de Dieu, ou du centenaire de la découverte de la mécanique quantique. Ça, c'était l'année dernière, 2025. J'espère que vous étiez à jour.
Oh, évidemment, Laurie. Pas vous.
Oh, si, je l'ai appris juste avant la fin de 2025, donc j'étais à jour. Blaise Pascal écrivait déjà au XVIIe siècle « Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. »
Joli, bon, c'est du Blaise Pascal, Wattel.
Alors, pour enchaîner avec moins de grosses citations, on veut la vie quotidienne parce que c'est la vraie vie, mais la vraie vie est ennuyante. Et si on s'y penche, on risque de trouver un vide de sens. J'ai fait l'expérience ces derniers jours. Quand je me suis baladée dehors, j'ai arrêté d'écouter de la musique et j'ai laissé mes oreilles entendre ce qui se passe autour de moi. Et je me suis dit qu'avec un peu de chance, j'entendrais des demandes en mariage sur le bord du chemin, des discussions philosophiques qui me retourneraient le cerveau à moi aussi. Et vous ne me croirez jamais, quand il y avait de la neige à Paris, j'ai entendu « Elle est grave grosse ta boule de neige meuf, mais t'as pas de gants ?» Bon, pour l'intense réflexion, on repassera. Et puis dans un bar, j'ai entendu des bribes de discussions touchantes. Une dame qui aidait un monsieur qui s'appelle apparemment Jean-Paul, que j'ai allègrement renommé Jean-Paul Naref, parce qu'il avait les mêmes lunettes et les mêmes cheveux. Ça après qu'il avait aussi la moustache de José Bové, ça cassait un peu le personnage. Bref, une dame l'aidait à trouver un nouveau boulot. Et elle disait « Dynamique, relationnelle, je suis très contente Jean-Paul. Franchement, c'est un honneur de m'avoir fait relire votre CV. J'espère que ça va marcher pour vous. » Et dans la rue, j'ai accès qu'à des morceaux de phrases. Et souvent, c'est pas très intéressant ce que j'entends. Mais au détour de la trivialité, je croise de la tendresse, car tout le sens auquel j'ai pas accès, il se trouve dans l'accumulation de ces petites phrases, dites à des personnes et à des moments soigneusement choisis, exprimant discrètement des joies exaltantes ou des peines immenses derrière juste quelques petits mots.
Alors Laurie, je vous coupe, mais ça m'arrive de faire aussi cet exercice, et j'aime beaucoup, sans m'y forcer naturellement, mais quand on est dans un lieu public comme ça, simplement ouvrir ses oreilles, écouter ce qui se passe autour de nous et puis ajouter l'observation visuelle, c'est très intéressant.
Ouais, moi aussi j'ai pris goût, en fait. On s'habitue vite. Et si on regarde juste aux mots, ils ne sont rien, mais toute la relation qui se crée et qui se joue entre les personnages, elles font naître le sens. C'est la relation qui nous sauve. Alors à nous qui sommes comme le roi de Pascal, est-ce qu'on peut se satisfaire de notre si pauvre condition, chercher du sens et se contenter d'un transcendant impersonnel? Je vous laisse à ces réflexions, moi je vais sur les réseaux, je vais poster un commentaire sous une vidéo et je lâcherai probablement un bon trimestre.
Merci beaucoup Laurie. Martine Lecoq,
oui.
Vous avez entendu la chronique,
oui.
Envie de réagir peut-être?
Non, pas immédiatement.
Particulièrement. La vie ordinaire, en tout cas, c'est quelque chose qui vous parle, là.
Pas vraiment. Enfin, je suis plutôt quelqu'un de complètement... comment dire, qui a beaucoup de mal à revenir sur Terre. En fait.
Ah oui.
Je ne suis pas du tout dans... c'est pour ça que mon livre est un grand effort sur moi. sur moi. Je ne suis pas dans les choses concrètes ni quotidiennes. Je suis même dans un total... Par contre, je suis dans le réel, je pense. Un réel où il y a quand même une connexion tout le temps entre le visible et l'invisible. Quoi.
Mais peut-être plus dans l'improvisation, dans... Une forme de liberté.
Oui, de liberté et de solitude aussi, de solitude importante. Aussi. Hein, ça... Oui, oui, donc je ne peux pas dire que je suis là aux aguets de ce, ce que j'entends à droite, à gauche. C'est plutôt... Enfin, je suis beaucoup dans la vie intérieure, en fait, vraiment. Mm-hmm. Et c'est un petit peu ce que je dis quand même à mon jeune chercheur, qui pourrait être n'importe qui, non, c'est de toujours essayer de repasser par son propre centre, enfin, pas son centre égoïste, hein, bien sûr, mais son centre vivant, quoi. C'est pour moi la seule résistance à ce que, justement, à ce qui nous est asséné de partout, par les médias, par le monde en général, et ses aspects noirs.
Et rappelons-le, vous êtes quand même journaliste.
Oui, tout à fait. Oui.
Ça n'empêche pas.
On ne sait pas pourquoi. Peut-être mon goût pour l'écriture, puisque c'est quand même surtout en presse écrite. Ouais. Donc c'est pareil, ça demande du temps, du silence, de la concentration et de la solitude.
Critique d'art également.
Oui, critique d'art. Oui, tout à fait. Sur tous les arts plastiques et visuels.
Alors dans ce livre, Lettre à un jeune chercheur de Dieu, on le rappelle, chez Labor et Fides, vous parlez de Dieu sans dogme, je le disais au début, sans morale imposée, sans langage religieux pesant. Est-ce une manière finalement aussi de rejoindre celles et ceux qui se méfient du religieux tout en ayant peut-être soif de sens? Je sais que nombre de nos auditeurs se situent dans cette catégorie-là.
Ah oui. Bien sûr. C'est pas facile d'avoir confiance dans le religieux. Et c'est pas facile pour les religieux d'avoir confiance dans ceux qui sont méfiants, d'ailleurs. Et je pense que la foi, effectivement, personnelle, de toute façon, il y a toujours une friction intérieure entre la foi personnelle et l'Église institutionnelle. C'est normal. Quelqu'un qui la sentirait pas, pour moi, serait un croyant bizarre et même sujet à caution. C'est un peu comme ces gens qui vont dire... depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, tout est résolu. Ça me fait peur, ce genre de choses. Non, rien n'est résolu, rien n'est résolu.
Christ se situe ailleurs.
Oui, c'est ça, le Christ est venu sur Terre pour nous... pas pour nous garder au chaud dans notre confort
et nos certitudes. C'est peut-être même un peu l'inverse.
C'est même plutôt l'inverse, dans un inconfort créatif, je pense.
Vous évoquez l'Église et vous en parlez aussi dans ce livre, et vous portez un regard
pas toujours sympathique.
Voilà, on peut le dire comme ça. Vous décrivez comme parfois de l'Église comme de petites sociétés avec leurs codes, leurs peurs.
Oui, c'est ça. C'est malgré tout des milieux sociaux. Et c'est vrai que pour y être intégré, c'est pas si facile qu'il y paraît, parce qu'il faut parler le même langage, il faut faire ses preuves, et parfois on fait ses preuves une fois, puis deux fois, puis trois fois. C'est justement ce problème de confiance, il va dans les deux sens, vraiment. Maintenant, j'ai rien contre. Enfin, les églises protestantes historiques, je les aime beaucoup. Je pense qu'elles sont quand même fondamentalement ouvertes. Mais d'autant plus, ces petits travers sont dommageables. Et c'est vrai que souvent, en plus, les gens arrivent à une église, quand ils veulent faire leur premier pas dans une église, ils n'ont pas forcément 20 ans comme mon jeune chercheur, ils peuvent avoir 30, 40, 50. Ils ont donc un passé derrière eux, et souvent, on les voit, ils sont débutants en théologie, débutants en connaissance du christianisme, mais ce n'est pas des débutants de la vie. Donc, ils ont un passé spirituel avant eux. Et j'ai toujours l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, enfin, ça, c'est une critique parmi d'autres, je veux dire, c'est... Et puis c'est vrai aussi que les églises, mais je pense que ce serait vrai pour tous les milieux sociaux, connaissent surtout leurs propres besoins, souvent matériels, ce qui est très compréhensible, mais du coup n'écoutent pas forcément des offres qui semblent décalées par rapport à ces besoins. Ils ne se disent pas qu'ils en ont peut-être besoin, en fait.
Peut-être que, justement, l'une des grosses difficultés, c'est d'accepter d'être décalé, d'être bousculé.
Oui. Mais je pense qu'il y a une mutation presque inconsciente, j'ai l'impression, ouais, qui se fait sous tout ça, souterrainement, sous tout ça. C'est peut-être pas, au fond, il faut peut-être pas chercher à mettre du renouveau absolument. Je pense que de toute façon, c'est en train de bouger dans les profondeurs.
Alors, en lisant votre livre, en lisant ces lettres, j'avais le sentiment que une des choses que vous exprimez, c'est que la foi n'est pas une fuite hors du monde, mais finalement une manière d'habiter la vie plus pleinement.
Oui.
Est-ce que ça ne serait pas non plus simplement le cœur de l'évangile qui est,
oui,
qui est là?
Oui, je pense. La foi, pour moi, c'est avoir confiance dans ce qui nous dépasse, au fond. C'est ça qu'on peut, ce serait une définition de Dieu. Et la foi, c'est peut-être oser se reposer dans l'imprévisible, dans tabler sur le positif d'un imprévisible ou de l'inconnu. Et je pense que la foi, elle est assez éternelle, si j'ose dire, dans la mesure où elle nous quitte quand même. Mais elle revient toujours nous chercher à un moment. En général. Et la foi est quand même parsemée de doutes terribles. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je la vis. C'est toujours un drame un peu recommencé sans arrêt.
Est-ce que d'ailleurs la foi n'a pas de sens autrement qu'en passant par le doute?
Oui, je pense aussi. La foi n'est pas quelque chose qui ignore le doute. C'est quelque chose qui traverse le doute, qui triomphe du doute. Mais ce combat intérieur est sans arrêt à faire et refaire.
Nécessaire.
Oui, est nécessaire.
Alors au cœur de cette émission, chaque semaine dans Solae ou presque, nous avons un rendez-vous avec la parole. Et Martine Lecoq, vous avez choisi un texte de l'Épître aux Romains au chapitre 8, les versets 22 à 25, un passage où Paul parle d'une création qui gémit et d'une espérance qui ne se voit pas encore. Je vous propose de l'écouter, lu par David Teinturier.
Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, en attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance.
Martine Lecoq, pourquoi ce choix de texte où il est question de gémissement, d'attente, d'espérance invisible, oui. En quoi résonne-t-il avec votre livre?
Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. Déjà d'une création qui gémit, qui est dans les douleurs de l'enfantement. Donc création, nature, une nature humaine évidemment. Et là, à une époque comme la nôtre, où j'entends des gens dire parfois que l'homme est fini, la nature finie, ou va vers sa fin, je me dis peut-être que ce chaos un peu dans lequel on est en réalité un enfantement douloureux. Et que ça ne donnera pas forcément un monstre au bout du compte. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est cette inversion que je trouve intéressante dans la phrase « Nous avons tous été sauvés, mais c'est en espérant ». De dire d'abord cette affirmation « On est déjà sauvés, et c'est pour ça qu'on peut espérer ». Comme si, au fond... un espoir, c'est fait normalement pour atteindre quelque chose, mais là, l'essentiel est presque déjà atteint. Et là, du coup, ça coupe tous les faux espoirs, tous les mensonges qu'on pourrait se raconter à nous-mêmes.
Il y a quelques semaines, nous avions une émission avec Pierre Blanza autour de l'unité, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le verset qui avait été choisi, alors, n'était pas le même, mais partait du constat que l'unité était un don de Dieu. Le postulat de départ est quelque chose qui nous est déjà donné, dans lequel, finalement, derrière, il y avait « Efforcez-vous », donc un travail s'opère.
Tout est à faire et en même temps, tout est déjà là. On a déjà, mais c'est pour ça qu'on peut avoir.
C'est ça, c'est un peu ça, là.
Oui, tout à fait.
Oui. Et cette espérance, alors, vous parliez de chaos, on est dans un monde, et on évoque souvent cela dans l'émission, fatigué, inquiet, désenchanté, enfin,
oui,
avec
on est quand
plein
même
de fractures.
Un carrefour avec quand même de multiples routes. Ouais. Et c'est pour ça que dans mon livre, c'est pas tellement de savoir si on choisit la bonne route, c'est peut-être plutôt de regarder le pas qu'on fait, à mon avis. C'est là-dessus que devrait tomber la lumière, il me semble. et qu'on soit pas sûr de prendre la bonne route, c'est bien aussi qu'on ose la prendre sans être sûr, sans être absolument sûr que c'est la bonne. Et sinon, ça revient à ce que je disais sur la foi à l'heure. Hein, je veux dire, c'est vrai que la foi, pour moi, c'est comme un grand point d'interrogation, mais tellement inscrit profondément qu'il a presque valeur de vérité et qu'il se passe très bien de réponse, en fait.
Dans votre propre chemin de foi, justement, est-ce que vous avez eu un moment de bascule, de silence, de dépouillement, où Dieu vous a semblé peut-être plus discret, mais peut-être aussi plus vrai ?
Comme je vous disais, il y a des moments où la foi nous quitte et où elle revient. Donc,
c'est ça.
Il y a toujours ces grands hauts, ces grands bas. Après, c'est une nature intense comme la mienne. Ça va vite à certains paroxysmes, autant dans les deux sens.
Dans les deux sens, dire, ouais.
Oui. Mais c'est j'accepte ça, c'est totalement accepté.
Et c'est un peu ce que vous osez proposer comme voie à ce jeune chercheur.
Exactement, cette idée où je parle pourtant beaucoup du bonheur. Hein,
tout n'est pas triste.
Non, pas du tout. Au contraire, c'est même un livre qui peut faire du bien, comme vous le disiez au début.
Bien sûr.
Mais c'est vrai d'un oubli, d'un bonheur qui ne serait pas l'oubli du malheur, au fond. C'est peut-être ça qu'il faudrait chercher. Mais sinon, même dans les... Enfin, ce que je pense, et ce qui est l'élément sûrement optimiste de ce livre, c'est que ça tourne quand même toujours autour d'une joie existentielle, quelle que soit, effectivement, sans déni de réalité. Mais cette joie existentielle, tout le monde l'a. Je veux dire, même dans les circonstances les plus totalement tragiques, même si c'est très difficile de dire que dans la guerre, dans l'exil forcé, dans la misère, on peut accéder à sa joie, mais le germe, vraiment, je pense, étant chacun de nous,
et
ça c'est imperdable, c'est l'égalité des êtres entre eux. Pour
moi, pour aller dans ce sens-là, et c'est toujours assez compliqué à expliquer. J'ai le souvenir il y a déjà quelques années d'un voyage que j'avais fait dans un cadre avec une ONG en Inde, dans les slums de Chennai, et j'avais été frappé des enfants dans ces lieux. Comment dire, enfin, il n'y a pas de mots pour décrire l'état dans lequel ils vivaient. Et ces enfants jouaient alors avec un caillou, une boîte de conserve, et avaient un sourire sur le visage, un regard, un visage rayonnant. Et ce germe de joie, il était là, même si, bien sûr, la situation était tellement
horrible. Mais chez les enfants, ils sont incapables d'émerveillement, de... Oui, peut-être qu'ils sont plus dans les secrets de la vie et de la mort que nous, enfin je sais pas comment dire.
Et ça nous les révèle quelque part.
Oui.
Vous insistez beaucoup, et c'est dans ce que vous disiez à l'instant, sur une foi sans illusion, qui ne promet pas de solution miracle, justement. Comment tenir ensemble cette lucidité sur la souffrance personnelle, sociale, écologique, et une véritable espérance qui ne soit ni naïve ni résignée ?
Qu'est-ce qui peut permettre ça ? Bah, peut-être déjà cette confiance dans l'inconnu. Oui, l'acceptation. L'acceptation. Confiance dans le mystère orienté de notre existence, c'est-à-dire de penser qu'on est quand même sur un chemin, que même si on n'en comprend pas le but, on marche, et que c'est pas pour rien, et que... Oui, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Confiance dans le mystère.
Alors, je voulais lire un extrait rapide et vous entendre réagir sur la question de la prière.
Oui.
Quand tu pries, il te faut d'ores et déjà renoncer au miracle. Tu ne pries pas pour qu'un miracle se produise, mais dès que tu y renonces, un autre miracle se produit. Ce n'est pas celui que tu voulais, ce n'est pas celui qui répond à ta demande, c'est un autre. Celui qui est au-delà de toute réponse et de toute demande, c'est celui qui t'est destiné. C'est pour ce miracle-là que tu pries, pour celui-là et pour nul autre que lui.
Oui. Oui, alors la prière, c'est pareil. Ça peut être... prière, on imagine tout de suite une position de prière, mais on peut prier n'importe où, n'importe comment. Ça peut être une prière chrétienne, une danse soufie, je ne sais pas ce qu'on voudra. Mais on peut même prier sans savoir qu'on prie. Mais effectivement, on ne prie pas pour... on est peut-être obligé d'abandonner ce qu'on veut pour prier. C'est pas C'est Dieu qui veut, c'est pas nous. Donc effectivement, le miracle qu'on espère n'arrivera pas, mais si on regarde mieux, peut-être que le résultat sera plus intéressant. Parce qu'il puisera davantage dans nos ressources intérieures, dans l'abondance de nos ressources intérieures. La prière, c'est comme la connexion avec l'invisible. C'est pour ça qu'on peut prier n'importe où et n'importe comment. C'est à chaque moment où on sent cette connexion, je dirais qu'il y a prière. Et ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on appelle Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est ce qui répond à une prière cachée qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui nous concerne beaucoup plus profondément.
Lettre à un jeune chercheur de Dieu, donc, chez Labor et Fides, un ouvrage qui n'est pas à lire comme un livre de réponse, vous l'avez compris, mais plutôt un livre de compagnonnage, une foi qui ne s'impose pas, une espérance qui ne nie pas les gémissements du monde, une parole protestante, libre, exigeante et profondément humaine. Merci Martine Lecoq.
Merci à vous.
Merci d'avoir partagé avec nous cette manière donc de chercher Dieu, non pour fuir la vie, mais pour mieux l'aimer. Et c'est ainsi que Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, est une émission aussi à réécouter, à partager. Pour celles et ceux qui avancent, parfois à tâtons, mais toujours en espérance. Et pour résonner avec le titre de votre livre, Martine, mais aussi notre discussion ce matin, retour en 2001, année où sortait ce sublime album du groupe Mamgueuze, Pas de ce monde, et pour nous séparer, donc ce titre qui ouvre le CD, Et je cherche.
Je ne veux pas de cet amour, ces sourires, ces abat-jours, pas cet amour-là. Je ne veux pas de ces caresses, tous ces gestes de tiroir caisse. Pas cet amour-là, non, pas celui-là. L'amour ici-bas, se voit, se prend et puis se jette. T'oublie, te mord et puis t'achète. Se glisse entre les doigts, se fracasse du haut des toits. Et je cherche à mon tour à percer ce mystère, ce trésor qui descend du ciel.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost, et avec Manuel Couturier à la prise de son ce matin. Cette émission, vous pouvez la réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, mais aussi à tout moment sur celui de France Culture, ou bien sûr en podcast, au moyen de l'application Radio France. Ici même sur France Culture, à bientôt 9h, ce sont vos informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wacknin. Très bon dimanche à chacune et chacun.
Te mord et puis t'achète, te glisse entre les doigts, se fracasse du haut de toi. Et je cherche mon tour à percer ce mystère.